Seigneur, merci pour ta présence ce matin au travers de ces chants qui sortent de notre bouche comme une confession de foi. Et à cet instant, Seigneur, tu veux parler. Accorde-nous les oreilles de disciples pour que nous captions ton message. Donne-nous une intelligence spirituelle saine afin que nous la comprenions. Et accorde-nous un cœur qui soit comme une bonne terre pour recevoir cette semence, afin que nous soyons transformés à l'image de ton Fils Jésus. Au nom de Jésus, amen. Tout au long de notre parcours de vie, nous sommes souvent confrontés à des situations qui nous poussent parfois à aspirer à un changement. Quand notre maison elle est petite, nous aspirons à ce qu'elle soit beaucoup plus large. Si notre voiture est petite à trois portes, que les enfants deviennent nombreux, on a envie d'avoir une voiture qui soit capable de contenir la famille. Quand on a un cercle amical qui est assez rétréci, nous avons tendance à vouloir élargir notre horizon. Mais c'est tout à fait naturel. L'homme par nature a soif du renouveau. Il recherche constamment de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives et une transformation dans sa relation avec les autres, mais aussi avec Dieu. Une nouvelle année, un nouveau mois, une nouvelle semaine, un nouveau jour, une nouvelle heure, et que sais-je encore. Tout ceci symbolise un nouveau départ pour beaucoup dans notre cœur, désir explorer parfois ce qui nous paraît un inconnu. L'homme est toujours attiré par ce qu'il ne connaît pas. Et c'est tout à fait normal. Il nous faut intégrer de nouvelles habitudes. Il nous faut en acquérir d'autres. Abandonner certaines choses qui nous mettent dans une sorte d'inertie. Et chercher à aborder la marche chrétienne dans un esprit dynamique. Alors vous voyez bien que tout cela, c'est du renouvellement. Chaque jour, nous nous renouvelons. Chaque heure, chaque minute, chaque instant, nous devons aspirer à ce renouvellement qui rejoint les préoccupations de Dieu. Et le Seigneur dira, voici, je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et souvent, quand on parle de désert, on parle de la solitude, on voit l'état de cœur humain qui a besoin d'être inondé par la présence de Dieu et qui a besoin d'avoir une ouverture sur les autres pour lui donner le sentiment d'une véritable liberté. Alors, on va faire deux textes, un sur Zachée et l'autre sur un texte de David dans le Psaume. Lisons dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Alors le contexte. Jésus est en train de faire un voyage en direction de Jérusalem. Il est passé par Galilée, par la Samarie. Il a enseigné, il a délivré. À l'entrée de Jéricho, il a trouvé Bartimée à qui il a rendu la vue. Maintenant, il se retrouve confronté avec un gros cas, comme on le dit. Un cas difficile. En le résolvant, on résolve tous les autres cas et nous allons voir avec notre ami Zachée. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Alors un homme du nom de Zachée, Zacchaï, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. C'est là où j'ai insisté. Qui était Jésus? Il ne cherchait pas à voir Jésus seulement. Il cherchait à voir qui était Jésus. Ça change tout. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Continuons. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Alors le sycomore, sycomoria, vous savez que la clé de cette énigme, Zachée, se trouve dans ce mot-là, sycomore. Et vous allez voir tout à l'heure, vous allez apprendre quelque chose. Alors sur un sycomore, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit,
il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Continuons. À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Jugement. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Notez. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans certaines versions, il n'y a pas ceux, c'est ceux avec C-E-U-X. Mais en réalité, c'est le ce-e qui est intéressant parce que ça englobe beaucoup de choses. Voilà. Le suivant texte, Psaume. Ça, c'est le Psaume de David. Après qu'il a fait des bêtises, qu'il s'est caché, il ne voulait pas en parler pendant 3 ans et demi. Et Dieu a envoyé le prophète Nathan qui lui a délivré une parabole judiciaire. Boum, ses yeux sont ouverts. Et il finit par cette confession. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes. On pourrait intituler une rencontre avec la grâce divine change un homme. Ici, il s'agit de Zachée. Oh, ce nom. Ce nom, rien qu'évoqué, suscite différentes émotions. Un sentiment de colère, peut-être de honte pour les parents, pour les frères, pour les gens de la communauté de Zachée. Il y a des parents qui auraient aimé que leurs enfants soient un modèle, qui leur apporte la joie. Mais je crois qu'au sujet de Zachée, ses parents doivent se mordre les dents en disant que, ouf, qu'avez-vous nous fait pour mettre un tel homme comme ça au monde? Le nom de Zachée suscite la colère. Le nom de Zachée évoque la trahison. Il est considéré comme le traître de la pire espèce, car il était collaborateur de Romains. Et tout ceci, si nous le rassemblons, il provoque dans le cœur de l'homme, à son égard, des jugements. Zachée a été jugé par ses compatriotes à cause de sa mauvaise réputation. Voilà le premier obstacle que Zachée a été lié à ses propres actes et ses propres actions. Comment est-ce qu'il a construit sa vie? Comment il a établi les relations les uns avec les autres? Et parfois, nous sommes artisans de nos propres malheurs. Nos malheurs ne viennent pas de l'extérieur. C'est ce que nous posons, acte après acte, qui peuvent déterminer ce que nous allons devenir par la suite. Si tu poses un bon acte aujourd'hui, c'est comme une semence qui te projette vers l'avenir. Et si tu ne le fais pas de la belle manière, tu n'auras pas les matériaux pour construire demain. Zachée est une figure d'une personnalité méprisable. On pourrait même dire qu'il est radioactif. À son passage, les parents tirent leurs enfants pour que celui-ci ne soit pas au contact parce que Zachée pouvait les contaminer. Zachée, c'est l'incarnation de tous les maux dont souffre Israël. Un parfait exemple à ne pas copier, Zachée. Et du coup, il est devenu marginal. Dans une foule, il est toujours isolé. Dans les synagogues, il n'est pas invité. Dans les places publiques, il est toujours ignoré. Dans les célébrations, vous savez, en Israël, il y a 12 fêtes. Au moins 12 par an. Mais c'est plus. Si vous ajoutez les mariages, vous ajoutez les circoncisions, vous ajoutez les événements qui viennent dans la vie, c'est toute une occasion pour vivre une vie de communauté, de la joie. Mais à cela, Zachée isolé, il n'est pas invité à cause de ce qu'il représente. Pire encore, il est devenu un instrument entre les mains de l'ennemi. Zachée, il est publicain. Plus encore, il est chef des publicains.
l'équivalent d'un inspecteur à chef ou un inspecteur principal des impôts. Et en plus, il joue le rôle de l'huissier. Alors, j'ai vu un agriculteur un jour qui a sorti sa carabine auprès d'un huissier. Il a dit que si tu franchis ma concession, je te descends. On voit le rapport entre nous, les administrateurs, avec les huissiers. Quand tu ne payes pas ton impôt, non seulement tu peux te retrouver en prison, mais il peut te dépouiller de tout ce qu'il arrive. Voilà ce qu'est Ésaü. Il faut qu'on ait quand même l'idée de personnage. Comment voulez-vous que quelqu'un aime une telle personne? Alors le jugement tombe. Zaché de la pire espèce. Il a vendu son âme au diable. Il est bon pour l'enfer. Et lorsqu'il se promène, il se casse sur le capuche pour qu'on ne le reconnaisse pas. Mais cependant, c'est un homme richissime. Il est devenu riche parce qu'il a fait une alliance avec les Romains. On lui demande un certain montant qu'il devait verser à Rome au bout d'un certain temps. Mais lui, il en collecte beaucoup plus. Et la différence, il met dans sa poche. Ce qui le conduit à avoir la plus belle maison, ce qui le conduit à avoir les plus belles tenues, quand il se promène, oui, on dit que c'est Zaché. Les objets de décoration de sa maison sont tous dorés. Ah, ça, c'est lui, Zaché. Mais c'est froid. Pour l'opinion publique, ce n'est pas un homme qu'il faut fréquenter. Et même pour voir Jésus, même pour voir qui était Jésus, la foule ne le permettait pas. Il y a des murs d'épaule qui se tiennent les uns contre les autres, qui l'empêchent de pouvoir regarder Jésus, tellement qu'il est de petite taille. Mais il va compenser sa petite taille avec une intelligence. Il va contourner la foule et il va aller monter sur un sycomore sur lequel je veux revenir. C'est au sycomore que la rencontre se fait. Mais qui est Jésus? On a vu ce qui est Zaché. Parce que c'est le personnage principal de ce texte. Jésus. L'existence historique de Jésus ne fait aucun doute. Vous conviendrez avec moi. Tout le monde sait que Jésus a existé. Mais la question à laquelle se heurtent beaucoup d'hommes, c'est plutôt son identité. Qui est Jésus, le Christ? Qui est Jésus de Nazareth? Il fallait ajouter le mot Nazareth pour faire la différence avec le nom Jésus. Parce que le mot Jésus était commun à l'époque. Il n'a pas le seul nom. Ce nom, Dieu lui a donné pour que ses contemporains puissent le reconnaître. Qui est le Jésus de la Bible? C'est à la fois un homme et c'est à la fois Dieu. Certaines grandes religions reconnaissent que Jésus a existé, mais que c'était un prophète ou un devin, que c'était un humaniste ou un bon enseignant, ou c'était un homme saint. Sauf qu'ils oublient que la Bible parle de Jésus pas en ces termes, c'est au-delà. Ainsi, Jésus était homme. Il est né d'une fille des hommes. C'est le prototype de l'être humain selon Dieu, car le premier homme, qui était Adam, a succombé au péché. Ainsi, l'être humain par excellence est l'image de Christ, où Christ, Jésus, est l'homme par excellence, selon Dieu. Selon Dieu. C'est pour qu'il est devenu le modèle à copier, le modèle à atteindre. La Bible a dit que c'est par la faute d'un seul homme, Adam, que le péché est entraîné dans le monde. Le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et l'être humain, dans sa marche, est devenu un être égaré, sans direction, comme nous l'avons lu, chanté tout à l'heure. Mais la Bible dit en même temps que par l'obéissance d'un seul, appelé le dernier Adam, le premier a introduit la mort, le second, lui, par son obéissance, va apporter la vie, et ce dernier Adam est la personne de Christ. Ainsi, l'œuvre de Jésus, le seul juste, libère tous les humains du jugement et du jugement divin et les fait vivre. Voilà pourquoi il a dit que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est Dieu, car Dieu lui-même a rendu témoignage de lui. La Bible a dit que car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Mais lorsque Dieu a dit aux anges, ou il a dit dans le ciel, « Qui enverrai-je? Qui enverrai sur la terre pour sauver les humains qui se retrouvent dans l'esclavage du péché ?» Aucune voix dans le ciel ne se fait attendre. Parce que le but de la mission, c'est de sauver les humains. Or, dans le ciel, il n'y a pas des humains. Les anges sont des esprits. Aucun esprit ne peut venir sauver les humains. Il faut que quelqu'un qui est à la fois humain et qui est à la fois Dieu. Qui peut résoudre l'équation? Personne. Pas l'ange Gabriel. Pas l'ange Michael. Aucun ange. Et c'est là où la voix de Jésus se fait attendre. Père, envoie-moi. Et Jésus se fait un corps humain. Voilà pourquoi il porte le nom de Jésus parmi ses contemporains. Mais en même temps, il s'appelle Emmanuel et Dieu pointe le regard vers le ciel. Parce que la nature qui est dans ce corps humain est la nature de Dieu. Jésus Dieu. C'est le seul qui peut être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et la parole de Dieu déclare, car il y a un seul Dieu, un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. L'homme Jésus, lui qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Voilà l'équation du Père. Revenons maintenant à la rencontre. Jésus marchait. Les gens applaudissaient. Dans la foule, il y a des gens qui cherchent le salut, la solution à leurs problèmes. Mais aussi dans la foule, il y a des curieux qui veulent voir comment le miracle se produit. Jésus, dans sa marche, à l'endroit où Zachée s'est perché, il leva les yeux et il dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre. » Waouh ! La foule s'est arrêtée. Jésus, depuis quand il connaissait cet homme avec son nom, lui qui est toujours évité, mais celui qui sait tout connaît son nom. Et vous allez voir la raison pourquoi Jésus connaissait son nom. La foule s'attendait à ce que, connaissant Zachée, que Jésus dit, descends. Qu'est-ce que tu as fait à tes compatriotes, toi? Pourquoi tu as volé des sous? Pourquoi tu as arrangé encore les veuves les plus misérables? Pourquoi tu... Voilà, parce que tu n'as pas observé la loi. La foule s'attendait à ce que Jésus ajoute encore une couche au jugement qu'il subissait déjà, le pauvre. Mais Jésus va dire autre chose. Zachée, dépêche-toi de descendre de ton arbre. C'était intelligent hein, de monter sur l'arbre pour compenser sa petite taille. Mais souvent l'arbre sur lequel nous montons pour rencontrer Dieu n'est pas le bon. En réalité, rencontrer Dieu, c'est rencontrer le bonheur, rencontrer la lumière, rencontrer la grâce, la liberté, la délivrance. Mais les hommes le font autrement. Parfois par des philosophies qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Parfois par la pensée d'un humanisme athée qui détruit notre société. Et nous en sommes tellement bassinés que parfois on ne fait pas attention, on est embarqué. Descends. L'histoire de l'humilité là. Si tu veux rencontrer Jésus, Dieu descend. Descends de la hauteur de ta raison. Descends de là où tu es perché depuis toujours. A-t-il obéi? Oui, il a obéi. Mais nous allons aller beaucoup plus loin. L'arbre apparaît ici comme le moyen qui permet à Zachée de voir qui était Jésus. Ce n'est pas n'importe quel arbre. C'est un sycomore. Et dans la Bible, il est fait mention de beaucoup de sycomores. Cependant, le sycomore de Zachée, qui est une espèce particulière, n'est cité qu'à cet endroit-là, une seule fois. L'étude biologique donne le nom du figuier d'Égypte. C'est pourquoi dans certaines versions, on retrouve le mot figuier. Mais quand on dit figuier d'Égypte, il s'appelle sycomoroïa. Le mot de la fin, sycomoroïa, c'est le même mot qu'on retrouve dans le mot paranoïa. Et c'est le même mot qu'on retrouve dans le mot métanoïa, qui fait allusion à quoi? Un changement de mentalité. Donc avant qu'il ait monté dans cet arbre pour voir Jésus, ce pauvre bonhomme est dans un tourbillon intérieur. Il est en train de s'examiner. Pourquoi suis-je mis de côté? Pourquoi on ne m'invite pas? C'est que j'ai dû faire quelque chose qui ne soit pas bien. Mais comment faire? Est-ce que celui dont j'ai entendu parler, ce Jésus, qui ne rejette personne, qui accepte tout le monde, va-t-il m'aimer? Va-t-il m'accepter? Voilà le tourbillon qui est dans le cœur de cet homme. Et il va monter dans l'arbre. Monter dans cet arbre-là qui s'appelle figuier d'Égypte, ce n'est pas rien. Vous connaissez ce que c'est que l'Égypte ? Terre de l'esclavage. Terre dans laquelle le peuple de Dieu est opprimé. La terre de l'esclavage en tant que telle. Et le figuier peut représenter le passé malheureux de beaucoup de milieux de nous, duquel Dieu nous a tirés. Et là, il est en train de s'acheminer vers une délivrance, parce que c'est Jésus qui va lui apporter la délivrance dont il a besoin. Le moyen pour voir Dieu, c'est le sycomoria. Et on voit l'équivalence entre le sycomore, l'arbre et Jésus. C'est par Jésus que nous pouvons parvenir au Père. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut parvenir au Père que par Jésus. Il n'existe aucun autre nom parmi les hommes par lequel l'être humain peut être sauvé. Il n'y a pas plusieurs voies qui mènent à Dieu. Si les hommes veulent anesthésier leur conscience en disant que plusieurs chemins mènent à Rome, j'ose y croire, mais il n'y en a pas plusieurs qui mènent à Dieu. Dans le jardin d'Éden, il n'y a pas plusieurs voies. La seule voie qui a été fermée par les anges, c'était la voie qui donne accès à Dieu. Et Dieu a dit, ferme-la. Tant que l'homme est pécheur, il ne rentrera pas dans notre présence. Et Jésus est le chemin qui mène vers Dieu. Quand Zachée faisait cet acte, il y avait déjà un changement opéré dans son cœur. Vous pensez qu'avec un tel état de cœur, où la personne prend conscience de sa misère, et même si les hommes, en raison de leur haine, le méprisaient, mais cette bataille intérieure est vue de quelqu'un qui voit tout. Qui ? L'Esprit de Dieu. C'est parce que son cœur est vu de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu qui agit par Jésus, car Jésus ne fait jamais rien sans que le Père le lui a révélé. L'Esprit de Dieu a vu le cœur de Zachée, et ce même Esprit passé par le Père, il est descendu dans Jésus avec le nom de Zachée que Jésus ne connaissait pas. Et quand il est arrivé à son niveau, il a appelé par son nom. Il est tombé des nues. Comment pourrait-il m'appeler par mon nom ? Pendant que la foule attendait à ce que Jésus en ajoute une couche au jugement, Jésus va lui dire « descends ». Il va dire encore beaucoup plus « il faut que je loge chez toi ». Oh là là ! Cet homme-là, toi qui es Jésus, tu te dis « prophète » et tu vas loger chez cet homme. La critique a changé de cible. Avant, c'était Zachée qui est l'objet de toutes les critiques. Mais maintenant, Jésus comme un paratonnerre s'est interposé. Et c'est sur Jésus-Christ que tout tombe maintenant. Et c'est le rôle que Jésus est venu faire. Se substituer à nous. Nous méritons la colère de Dieu. Mais Jésus s'est interposé comme un paratonnerre pour canaliser la foudre de la colère de Dieu dans l'enfer. Et c'est lui maintenant que les gens commencent à critiquer vertement. Comment lui qui se dit saint, il mange avec les publicains ? Nous avons entendu qu'il mangeait avec les gentils. Mais là, il n'y a pas de doute. Il a appelé Zachée pour aller chez lui. Ça, c'est la rencontre de Jésus avec la grâce. La grâce de Dieu aux yeux des hommes paraît comme paraît injuste. Ah oui. La grâce de Dieu devant les hommes paraît toujours injuste. Car le geste de Jésus est considéré comme une transgression. Le geste de Jésus est considéré comme une offense pour les religieux. Et leur système, ils ont établi un critère de spiritualité selon leurs critères à eux, mais Jésus est venu donner un coup de pied dans tout ça. C'est Jésus qui encaisse les critiques. Est-ce de l'ignorance de leur part, de la mauvaise foi, de la jalousie, sans doute, parce que leur système était mis à mal lorsque Jésus était venu. Peut-être les trois. Pour un peuple qui est habitué à mesurer la qualité de la spiritualité par le mérite, le geste de grâce de Jésus à l'égard de Zachée, le pestiféré, le renégat, le mal perçu, ce geste est mal encaissé de la part des religieux et qui leur donne encore une raison de plus pour en finir avec Jésus. La présence de Jésus est pleine de grâce, pleine d'amour à l'égard de Zachée. La présence de Jésus apporte une sorte de lumière dans la conscience de Jassé, et maintenant, tous les souvenirs remontent. Les personnes qu'il a blessées, les gens qu'il a expoliés, le malheur qu'il a causé dans les maisons, tout ça commence à tourbillonner dans sa tête. Sans la lumière de Christ, il ne pourrait pas voir cela. Et sa structure mentale est complètement bouleversée. Tout autour de lui devient insignifiant. Il commence à éprouver, pour une fois, un sentiment de soulagement parce qu'il commence à avoir ses culpabilités, qu'il se pose à la question de savoir s'il est capable de réparer ou de corriger. Et cela le rongeait. Il ne semble plus être captif de ses possessions. Chaque fibre de son être vibrait au contact de celui qui est la lumière. Sans l'avoir connu, il l'appelait par son nom et qui s'invite chez lui. Lui qui a toujours été mis à l'écart des synagogues, des fêtes. Voilà que celui qui se dit saint accepte de venir chez lui. Tout ça, ça tourne dans sa tête. Sans la lumière de Dieu, nous ne pouvons pas voir la lumière. Vers le 16e siècle, nous avons vécu ce qu'on appelle le siècle de lumière, où l'Église, dans sa mauvaise conduite, a donné raison aux adversaires, en considérant l'Église comme obscurantiste, que si l'Église est là, on empêche les gens de réfléchir sainement, et qu'il fallait libérer les gens du joug de l'esclavage religieux. Et un mouvement des philosophes a été mis en place, qu'on appelle le siècle de lumière, qui a davantage apporté les ténèbres que la lumière. Hein, nous le voyons à l'heure actuelle, hein, ne dirait pas le contraire. Dieu, il est merveilleux. Il veut nous faire grâce. Mais si le Seigneur touche notre conscience, et souvent, il y a une chose que nous devenons chrétiens que nous ne faisons pas, que je vais aborder maintenant. Et si vous ne l'avez pas fait depuis que vous êtes devenu chrétien, il est temps de le faire. Ça libérait l'espace. C'est quoi? C'est que lorsque Zaché a pris conscience qu'il a commis une faute, non seulement à l'égard de ses contemporains, mais qu'il a commis une faute à l'égard de Dieu, il s'est repenti et il s'est engagé à réparer. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Hein? Lui, égoïste, celui qui aime beaucoup l'argent là, le cupide, qui est capable même d'écraser une mouche pour avoir au moins un centime là, lui, il va donner la moitié spontanément, sans le forcer. Il va donner la moitié de ses biens. Vous savez combien de biens il a? Même plus que chez les Romains. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et encore, il va perdre plus. Si j'ai volé quelqu'un, je vais lui rendre combien? 4 fois plus. Mais pour qu'il puisse faire ça, combien d'années il a expolié les gens? Imaginez. Il y en a d'autres qu'il a expolié, les parents sont morts, les hommes sont morts. Comment il va réparer? À cause de ce qu'il a fait, il y en a d'autres qui sont morts de chagrin. Mais il va avoir leurs petits-enfants, non? Il va être bousculé. Jésus ne dit rien là. Jésus est en train de le laisser faire. Sûrement que Jésus est assis dans un fauteuil, on lui donne à boire avec du chaud, et Jésus est en train de le regarder seulement. Jésus n'a pas ouvert sa bouche. La présence de Christ lumineuse suffit pour bousculer tous les ténèbres de notre cœur. Il dit à Jésus, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Jésus a cligné les yeux. Oui, fais-le. Comme la loi dit que si tu voles quelqu'un, tu le rends 4 fois plus, je vais le faire. Jésus n'a rien dit, clique les yeux, fais-le. Bon, maintenant, la démarche n'est pas évidente. On le connaît en tant que tel. Il va débarquer chez Nathanaël pour lui rendre l'argent qu'il a volé. Et Nathanaël va le voir venir là-bas, il dit que ça y est, il est venu encore pour m'amener chez les Romains. Les gens vont lui fermer la porte. Il faut qu'il leur explique que je ne suis plus le Zaché d'hier. Je suis devenu un autre Zaché. Et ce nom signifie quoi? Pureté, innocent. Avant, il ne portait pas son nom. Mais maintenant, il est devenu pur, juste et innocent. Je suis venu pour vous rendre ce que je vous ai volé. Ah, il faut être courageux pour le faire. Et il va rendre. Il va parcourir la ville de Jéricho. Il a un grand registre là. Depuis des années, les noms qu'il mentionne là, ça doit être comme ça épais. C'est un travail, hein, pas facile. Corriger les erreurs que nous avons commises par le passé. Et ce faisant, il soulage trois personnes. Il se soulage la conscience, il soulage ceux à qui il a fait du tort, et il rend gloire à qui ? À Dieu. Alors Jésus, il va faire une proclamation bouleversante qui va couper le souffle à tout le monde. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Parce que toi aussi, tu es descendant. Pourquoi le mot Abraham vient voir ici ? Pourquoi le mot Abraham vient voir ici ? Parce que Dieu a fait alliance avec Abraham. Et dans Genèse chapitre 15, quand Dieu a fait cette alliance avec Abraham, avec les animaux, Dieu n'a pas manqué de lui dire qu'attention, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 430 ans. Et de l'Égypte, je vais les délivrer. D'où le terme figuier d'Égypte qui apparaît ici. Descendant d'Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre en ton nom. Et par ces phrases, Jésus a fait deux choses à Zachée. Il a réintégré spirituellement dans la lignée de ses parents. Et deuxièmement, il a réintégré socialement. Parce que Zachée était un cadavre social. Il est mort spirituellement. Mais Jésus est venu lui restituer la place qui lui a été enlevée. Jésus ne l'a pas jugé. Jésus le regarde d'amour. C'est les malades qui ont besoin de médecins, mes bien-aimés. Souvent, nous voulons montrer à Dieu que nous l'aimons par nos propres forces, par le service que nous faisons charnellement. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas de notre main qui travaille. Dieu veut notre cœur qui le reçoit. Jésus va naître. Il ne va pas trouver une place pour lui. On va le mettre dans un endroit où il est menacé d'infection. Lui par lequel le ciel et la terre ont été créés là. Lui qui est le créateur de toutes choses. La terre était incapable de le recevoir au bon endroit. On lui a fait un petit réduit. Mais Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il porte notre faiblesse. La Bible a dit que celui qui n'a pas connu péché, Dieu l'a fait pécher. Fait pécher, afin que par lui nous puissions obtenir la justice de Dieu. Rien que notre foi en Jésus suffit pour établir toutes choses. Et nous sommes intégrés à la famille de Dieu. Car l'histoire de la Bible n'est pas histoire religieuse. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un monarque qui parle d'un monarque, qui parle d'une famille dont nous sommes la fratrie. Et le jour viendra où Jésus descendra du ciel. Et par le souffle de l'Esprit, nous aurons à sa rencontre. Une nouvelle ère qui a déjà commencé va être finalisée. Parce que ce que Jésus fait, il veut nous intégrer à sa famille. Parce que l'acte que Jésus a commis pour Zachée est un acte d'intégration. Jésus l'a regreffé à son origine. L'homme, par indépendance, est détaché de Dieu. Mais Dieu sait que sans Dieu, la vie de l'être humain n'est rien. Même s'il a les richesses comme Zachée, sa maison était froide, il n'y a rien de bon. Maintenant, tout commence à prendre vie, de la couleur. Il se débarrasse de ce qui est inutile parce qu'il a trouvé la bonne part, qui est Dieu. La richesse à laquelle Dieu nous invite à avoir. Nous avons été bénis de toute bénédiction. Où en es-tu, mon bien-aimé ? Ce message est nécessaire. Pour nous, quand tout semble un peu figé, touché par la morbidité religieuse, on a besoin que tout cela soit activé, que les ballastes de notre fusée soient débarrassés pour que nous en restions avec l'essentiel. Beaucoup de choses nous encombrent. On n'est pas léger pour témoigner de Dieu. Mais quand on est léger de toutes choses, rien ne peut nous empêcher. Voilà le rôle auquel Dieu nous appelle. Un gigantesque rôle. C'est une vocation d'être enfant de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, c'est un privilège. Mais c'est à la fois une charge. Pourquoi Jésus a fait ça? Et j'en termine. Parce que le journée était journée d'évangélisation. Je voulais terminer par cette tirade que Clémence avait commencée. On ne s'est pas concerté, mais elle a trouvé juste, par amour, Tout cela, Dieu, il a fait par amour. Il a délivré Zachée par amour. Et il veut te délivrer par amour. Le regard que Jésus a porté sur Zachée n'est pas le même que celui de la foule qui l'empêchait de voir le Christ. Le regard de la foule était celui du jugement mêlé au mépris, mais le regard de Jésus porté sur Zachée est un regard d'amour, un regard d'un berger responsable, cherchant sa brebis qui est perdue. C'est pourquoi Christ, entendant le monde, il a dit, « Je n'ai voulu ni sacrifice ni offrande, mais toi, Dieu, tu m'as formé un corps. » Et Jésus joue le rôle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est par amour pour toi que Jésus a pris la forme d'un serviteur. Il a paru comme un simple homme pour être obéissant toute sa vie et se donner aux hommes jusqu'à la mort. C'est par amour pour toi qu'il supporta contre sa personne la terrible opposition des pécheurs, des religieux, pour te sortir de l'esclavage spirituel. C'est par amour pour toi qu'il endura l'agonie et les terreurs de la croix. Il a supporté l'ignominie pour être ton substitut. C'est par amour pour toi que Jésus a accepté de boire la coupe de malédiction pour que toi, tu sois affranchi. Je vous laisse imaginer le reste. Comment il va désormais se promener dans la ville de Jéricho, Zachée? Va-t-on le pointer comme le mauvais, le méprisable, le renégat? Zachée va devenir un modèle qu'on va prendre pour enseigner aux enfants. Attention, regarde ce qu'il était et regarde ce qu'il est maintenant. Zachée n'appartient plus à l'homme du passé. Oui, passé il est appartenu, mais maintenant il est devenu un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont et toutes choses deviennent. Prions. Je vous invite à la prière. Seigneur, je vois cette sainte agitation qu'un tel message apporte dans le vase de notre cœur. Nous ne voulons pas rester là à écouter, mais nous voulons faire le pas supplémentaire, similaire à celui de Zachée, réparer. La réparation commence par le pardon, et la réparation va beaucoup plus loin en posant des actes, si cela est possible. Il y a des personnes sans doute à qui nous avons commis du tort qui ne sont pas de ce monde. Comment faire? Mais s'il y a encore des vivants, comment nous allons faire? Il n'y a pas eu des conduites générales à donner à tout le monde. Tu connais la personnalité des uns et des autres, notre vie, notre parcours. Nous n'avons pas tous un parcours identique, des parcours différents, des sensibilités différentes. Il y a des gens qui sont aptes à accorder le pardon, d'autres il leur faut du temps. Il y a des gens qui ont besoin d'abord d'être guéris pour faire ce pas. Et il y en a d'autres qui ont besoin de faire ce pas pour être guéris. Alors Seigneur, je te prie pour que tu parles dans le cœur de ton peuple. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, avec l'autorité, Seigneur Dieu, que nous avons de ta part, nous proclamons un nouveau départ pour chacun d'entre nous, ancien ou nouveau, nouvelle personne en toi ou personne ancienne, que les choses anciennes soient dépoussiérées, que notre approche biblique soit réelle, christianique, et non autre chose. Nous voulons centrer notre vie sur celui qui sauve, celui par lequel tu as exprimé ta grâce, ton amour, celui qui a signé la nouvelle alliance. Et tu ne nous considères pas par rapport à ce que nous faisons, mais tu nous considères par rapport à notre cœur et par rapport à ce que Christ a accompli. Père, étends ta main et bénis-nous tous. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen.